Afin de favoriser le logement à l'année sur l'île-Dieu, la mairie mène différentes actions en cours et à venir. Emmanuel Maillard, délégué à la vie économique à la mairie de l'île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Elsa Marché, chargée de mission Habitat à la mairie de l'île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Le programme local de l'Habitat sera lancé en septembre 2023. Quel est le but et quels sont les grands axes du programme ?
Le programme local de l'Habitat, c'est l'équivalent d'un PLU dont tout le monde entend parler régulièrement. C'est-à-dire que vous avez un document qui va définir la stratégie du territoire en matière d'habitat pour les 6 ans à venir, avec de temps en temps des points d'étape, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est une démarche en 3 temps qui est avec un diagnostic. Donc on a déjà, on va dire déjà un diagnostic depuis 2 ans, depuis qu'on a fait la semaine sur le logement. Mais là, on va être aidé d'un cabinet, on va avoir des réunions avec tout le département, les associations et les institutions qui sont spécialisées dans l'habitat, dans le logement, dans le foncier, etc. Donc on va fournir à la fin un vrai diagnostic chiffré, argumenté, etc. Ce qui va nous permettre de nous appuyer dessus pour pouvoir construire un vrai programme. Ensuite, on aura à définir des orientations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide nous. Et puis après, on aura un programme d'action pour mettre en place les orientations qu'on aura définies.
Est-ce que vous avez invité des résidents à participer à ce programme ?
Alors, on aura à des moments sûrement des journées, des réunions publiques pour échanger. Tout le monde sera pris en compte dans l'histoire et tout le monde va être associé au travail, ça c'est sûr.
Donc comment ?
Alors, il y aura des groupes de travail, il y aura des réunions publiques. Donc tout ça va se faire sur les mois à venir, etc. Et on a surtout, là pour l'instant, on est au stade où on va choisir le bureau d'études qui est spécialisé sur des PLH qui vont nous accompagner dans la mise en place de notre PLH. Donc on se lance tout juste. Mais l'intérêt de cette chose, c'est que de le faire même à une petite échelle sur une petite commune comme nous, c'est que grâce à ça, on aura un vrai diagnostic et grâce à ça, on va vraiment réfléchir avec plein de monde autour de nous aux orientations qu'on veut donner sur les prochaines années. Donc on va réfléchir à l'habitation pour les personnes âgées, l'habitation pour les jeunes, l'habitation pour les familles, l'habitation sectorielle, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mettre des secteurs où il faut absolument de la résidence principale, etc. Ça va être le point de départ et après on se servira de ce document pour travailler.
Elsa Marchais, c'est vous qui mettez en place ce PLH pour plan local d'habitation ?
C'est moi qui vais suivre le dossier du PLH. Oui, effectivement, on va être appuyé par un bureau d'études qui est en cours de sélection. Et c'est ce bureau d'études qui va travailler avec les élus et avec tous les partenaires du territoire et les partenaires départementaux. Et c'est tout ce travail en commun qui va permettre d'aboutir à un document qui sera partagé. Et effectivement, je serai en charge du suivi de ce dossier.
Autre point abordé avec vous, le règlement des meublés de tourisme. Que va définir ce règlement, Emmanuel ou Elsa ?
Alors,
parce que ça aussi, c'est un gros point.
Oui, la réglementation des meublés de tourisme. C'est-à-dire qu'on
ça va peut-être faire grincer les dents également.
Oui, possible. Alors, l'idée, c'est toujours la même chose. On est à la recherche d'un équilibre, de retrouver un équilibre entre résidence principale, résidence pour des saisonniers, des travailleurs, les résidences pour les résidences secondaires qui viennent en vacances, et on a cet accueil de gens qui viennent à la semaine donc, et qui se retrouvent dans des meublés de tourisme. Depuis des années, en fait, avec les plateformes qui se sont lancées, on est passé des gens qui louent de temps en temps le studio au fond du jardin, qui louent de temps en temps leur résidence secondaire, etc., à du business, voire j'investis dans une seconde maison que je mets en résidence, en meublé de tourisme, etc. Et on a, en parallèle de ça, on a perte du logement à l'année. On a perdu un tiers du parc locatif à l'année en moins de 10 ans. Donc, ça explique pourquoi sur les réseaux sociaux, on voit tant de gens qui cherchent des maisons, quoi. Donc, il faut, comme toutes les villes le demandent, le littoral, tout le monde le dit, il faut réglementer tout ça. Donc, c'est l'objet de cette réglementation des meublés de tourisme. Donc là, on a depuis quelques mois, grâce à Elsa, depuis qu'elle est embauchée, on a mis en place une commission sur l'habitat avec des gens de la société civile, des gens de l'opposition et la majorité. On travaille là-dessus. Et donc là, on va faire un groupe de travail avec tout ce petit monde-là pour réfléchir à une réglementation sur les meublés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, est-ce que je dois en avoir... Je vais te donner des exemples, mais j'ai 2000 meublés de tourisme qui sont déclarés, qui existent à l'île-Dieu. Est-ce que j'en veux que 1500 ou est-ce que j'en veux que 2000 ou il m'en manque et j'en mets 2500? on entend parler dans les villes de systèmes de compensation, c'est-à-dire si vous avez 3 meublés de tourisme, en fait, vous en aurez plus que 2 et le troisième doit être en location à l'année. C'est ce qu'on appelle les systèmes. Donc, il y a tout un système de leviers qui existe, qui sont la loi les met en place. Donc, nous, maintenant, il faut qu'on travaille pour encadrer, réglementer. Ça ne veut pas dire punir, faire disparaître le meublé touristique. C'est juste encadrer pour rechercher à nouveau un équilibre. Le but de tout ça, c'est de recréer, je le rappelle, de la résidence principale.
Ce règlement des meublés de tourisme sera mis en place à partir de quand ?
Alors, on a la première réunion de travail qui va se faire la semaine prochaine, où on va commencer à dégrossir, et on espère pouvoir mettre ça en place l'année prochaine. Alors après, c'est pareil, les gens qui écoutent, il faut bien se dire une chose, c'est qu'une fois qu'on aura mis en place le règlement, il faut que tout ça, on le mette en place pour que les gens ils puissent venir s'inscrire, etc. Et on va laisser un temps aux gens pour se mettre en règle avec le règlement.
En gros, vous allez limiter le nombre de locations meublées, pour faire simple.
Pas obligatoirement.
Ou le temps de ça location.
Peut, oui, dans les leviers qui existent, on peut aussi se dire qu'on autorise à moins de jours ou des choses comme ça.
Ce règlement des meublés, c'est autorisé par la loi ? Vous avez fait une demande à la préfecture ?
Alors, on est une demande à la préfecture, c'est autorisé pour les grandes villes, pour les villes qui sont, enfin, les zones qui, ceux qui sont en zone tendue. Donc, c'est en général, c'est les centres-villes des grandes villes, comme on va dire Saint-Malo, etc. Nous, on n'y a pas droit. Les choses sont en train d'évoluer, puisqu'il y a des décrets qui sont en train de paraître où finalement on va sûrement y avoir droit. Mais on a fait une demande de dérogation auprès de la préfecture. Donc, on attend la réponse. Normalement, ça va se faire.
Cette réponse est attendue pour quand, Elsa ?
Prochainement, dans les mois qui viennent.
C'est vaste tout de même, prochainement, dans les mois qui viennent.
Pour l'instant, c'est ça. Après, par exemple, il y a quelques jours, la Carole, donc la première adjointe, a rencontré la ministre des collectivités territoriales, Madame Faure.
Carole donc, Charbot, pour
oui,
la nommer.
Et donc, elle est allée défendre notre dossier et je pense que ça a joué. Enfin, elle a eu une écoute attentive, donc elle a bien expliqué qu'il fallait que tous ces dossiers avancent, quoi, qu'ils ne pouvaient pas nous laisser traîner là-dessus. Donc ça devrait peut-être arriver plus vite que prévu.
Elsa Marché, y a-t-il des aides pour les propriétaires souhaitant louer leur meublé à l'année ?
Oui, il y a
une aide. Des aides à la rénovation également.
Oui, alors il y a notamment une aide communale pour la remise en location à l'année. En fait, pour favoriser la création de logements locatifs, la commune elle a mis en place une aide financière qui est de 5 000 euros pour inciter les propriétaires de logements qui sont occupés qu'une partie de l'année à les basculer en location à l'année, donc notamment les logements vacants, les résidences secondaires et les logements en meublé de tourisme. Ces logements peuvent avoir le droit à une aide de 5 000 euros qui est lissée sur 3 ans. Contre condition de location sur 3 ans. Et c'est une aide qui est sans condition de travaux. Donc ça s'adresse autant à des logements qui sont loués vides que des logements qui sont loués meublés. Et si les logements ont besoin de travaux, ils peuvent très bien passer par le guichet unique de rénovation de l'habitat. C'est un guichet qui conseille et qui accompagne alors, d'un point de vue technique, d'un point de vue financier et puis d'un point de vue administratif, les ménages qui ont des travaux de rénovation énergétique ou d'adaptation au vieillissement. Et du coup, ça accompagne les propriétaires, donc occupants, mais aussi les propriétaires qui louent leur logement. Et du coup, pour ça, on a 2 prestataires qui viennent tous les mois sur l'île pour conseiller les particuliers.
Par contre, il y a des règles pour les propriétaires qui veulent avoir accès à cette aide pour louer leur maison ou leur maison secondaire à l'année. Est-ce qu'il y a un temps de location, 3, 4 ans, etc., etc.
Il faut que les propriétaires s'engagent à louer sur une période de 3 ans. Et puis, il faut qu'ils respectent les critères en question, c'est-à-dire que ce soit un logement qui soit partiellement occupé jusque-là. Et pour toutes ces questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à passer à la mairie pour se renseigner. On les renseignera, que ce soit sur les aides à la rénovation, les aides à la location.
Emmanuel Maillard, oui.
Oui, juste pour dire qu'en fait, ça, c'est un début de dispositif. C'est-à-dire que là, on vient de parler de réglementation des meublés de tourisme où on va réglementer. Donc, inévitablement, il va y avoir des gens qui vont se retrouver avec un bien qu'ils ne pourront plus louer en meublé de tourisme. Et nous, en parallèle, on est en train de travailler pour les aider à passer ce logement en logement à l'année. Donc, on sait que fiscalement, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même rentabilité. Donc, on est en train de commencer à mettre des dispositifs comme cette aide à pour des travaux. Et on va réfléchir à nouveau cet hiver pour étoffer le dispositif pour que les gens puissent facilement passer d'un système de location à un autre système de location sans se retrouver avec des grosses pertes financières, par exemple, où on va travailler sur les garanties par rapport au loyer, des choses comme ça.
En vous écoutant parler, tout est fait pour que les propriétaires de meublés louent à l'année. C'est un objectif, Emmanuel Maillard.
Ce qui a été décidé par rapport à la réglementation, c'est de se dire qu'on va essayer de limiter le meublé touristique, on va dire, comme un business. C'est-à-dire que la personne qui a au fond de chez lui un studio, elle va garder cette location. Les gens qui ont une résidence principale, à des moments, ils le louent parce qu'ils partent en vacances. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Celui qui a une résidence familiale, par exemple, bah, il va le faire. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on veut pas. Là où on va s'attaquer, c'est les gens qui commencent à investir à l'île-Dieu avec plusieurs, en achetant plusieurs biens pour le mettre, pour faire de la rentabilité sur du logement saisonnier. Puisque là, on perd du logement à l'année, c'est clair. Et en plus, ce business, les études sont en train de le montrer, le business, on va dire Airbnb, mais ce n'est pas le seul, fait concours à augmenter le prix du foncier et du bâti sur les endroits où il s'installe. Donc, voilà.
La majoration, par contre, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est-elle en place, Emmanuel Maillard ?
Alors, elle ne va pas tarder à l'être, puisqu'on vient d'être nommé dans les communes qui vont avoir le droit de mettre en place cette majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, on l'a votée en délibération à la mairie il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, elle avait été suspendue parce qu'il n'y avait pas de décret qui était paru. Maintenant que le décret va paraître, mais l'État a promulgué la liste des communes qui vont avoir le droit à cette majoration. Donc, on est dedans, avec toutes les autres îles du Ponant, d'ailleurs. Et donc, on va la mettre en place pour 2024. Donc, on met en place la majoration et on met le taux le plus élevé autorisé par la loi, qui est de 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors, ce n'est pas une punition, ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. On a besoin, c'est un des seuls leviers que nous donne le gouvernement actuellement pour avoir une vraie manne d'argent, un vrai budget pour aller faire du logement, pour recréer du parc locatif à l'année. Donc là, on va récupérer une somme. Cette somme ne servira qu'à travailler sur l'habitat et le logement pour les gens de l'île-Dieu.
Donc, résidence secondaire, si un résident de l'île-Dieu a une résidence principale et une résidence secondaire, ça rentre dans ce cas, en fait.
Oui, tout à fait. Après, je sais qu'il y aura des gens, ça va être difficile pour certains, ça va être un peu vexant pour d'autres. Ça, j'en conviens. Maintenant, si l'État nous donnait d'autres leviers ou si l'État nous donnait, je ne sais pas moi, 2, 3 millions pour pouvoir aller racheter au prix du foncier à l'île-Dieu, pour racheter des maisons dans les villages, dans les bourgs, pour pouvoir mettre de la location à l'année, on ne ferait pas cette majoration. Hein.
Par exemple, une personne qui paye 400 euros de taxe d'habitation sur cette résidence secondaire paiera 240 euros en plus, si mes calculs sont bons.
Oui, ça a l'air bien.
Ça, pour certaines personnes, ça va être difficile, je pense, non ?
Oui, ça va être difficile, peut-être. Oui, sûrement. Oui. Je ne dis pas qu'on est en train de faire un truc hyper sympa, hein, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que grâce à ça, on va pouvoir... Alors, l'île-Dieu, normalement, la majoration devra nous... On devrait récupérer 1,5 million par an. Ça va nous permettre d'aller chercher des prêts bancaires pour plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui va nous permettre d'aller acheter des maisons qu'on va pouvoir retaper, qu'on va pouvoir mettre à l'année pour des familles. Il faut voir une chose, c'est qu'on a plus d'une cinquantaine de gens qui cherchent des maisons actuellement. On a des professeurs, à la rentrée, ils n'ont pas de logement. Si on veut faire venir des services médicaux, des choses comme ça, si on ne peut pas les loger, on n'a plus les services qui vont en face. On a des boulangers là, qui, même en début de saison, ils sont encore en train de fermer des demi-journées parce qu'il leur manque du personnel, parce qu'ils n'ont pas le logement. Je sais que dans les métiers de la coiffure, ils vont avoir un problème, dans la restauration, etc. Donc, à un moment donné, si on n'est pas capable de loger les gens de l'île-Dieu, on n'a pas qu'un problème de taxation, là, on a un vrai problème de vie, quoi. Donc, en effet, ce n'est pas super agréable. Par contre, on va, grâce à ça, pouvoir recréer du logement, du parc locatif. Et ce parc locatif restera, j'ai envie de dire, communal pour que sur des plusieurs générations, on puisse loger les gens. Quoi.
Autre action, le lancement d'un dispositif pour favoriser le logement des saisonniers chez l'habitant. Quel est le principe, Elsa Marché, chargée de mission Habitat à la mairie de l'Île-Dieu?
Oui, c'est un partenariat qui a été mené entre la mairie et l'Office du tourisme. En fait, on lance une campagne d'incitation d'hébergement des saisonniers chez l'habitant. Donc les propriétaires de chambres qui sont inoccupées, ils sont invités à se rapprocher de l'Office du tourisme et ils seront mis en relation avec les entreprises qui sont à la recherche de solutions de logement pour leurs saisonniers. En fait, l'Office collecte les offres de location, recense le besoin des entreprises et puis elle met en relation et en plus, elle apporte une information et un conseil dans les démarches, que ce soit sur le type de bail, sur le niveau de loyer, sur la fiscalité. Parce que quand on met une chambre en location dans sa résidence principale pour un saisonnier, c'est pas imposé fiscalement. Et puis aussi au niveau de l'assurance. Toutes ces petites informations sur les modalités de mise en location, l'Office du tourisme apportera l'info.
Vous avez déjà eu des propriétaires qui sont positionnés ?
Oui, on a 7 propriétaires qui se sont rapprochés de l'Office pour avoir des informations. On en a 3 qui doivent revenir là dans les prochains jours et qui sont très intéressés. Et puis, on a un propriétaire qui a déjà été mis en relation avec plusieurs entreprises, ce qui devrait permettre de loger 3 saisonniers.
Alors, juste pour finir avec le logement des saisonniers, on rappelait qu'on a aussi la résidence à Saint-Sauveur-les-Patagos, où on loge déjà des saisonniers. C'est des contrats qui sont faits avec les entreprises. Et pour finir, ce partenariat qu'on vient de lancer, il sera complété. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, cet hiver, on va aussi réfléchir à aider encore plus les gens qui auraient ou des chambres chez l'habitant ou d'un studio qui voudraient soit pour du saisonnier, soit on peut aussi penser aux élèves de l'école des pêches, etc. Donc, on va travailler à compléter ce dispositif pour encore plus rassurer tout le monde et aider à ce que propriétaires et entreprises arrivent à travailler ensemble.
Y a-t-il un ou des programmes en cours et à venir pour les personnes voulant faire construire sur les lieux ?
La semaine dernière, on a eu un tirage au sort parce qu'on avait un lotissement avec 7 parcelles qui étaient à mettre à disposition des gens de Lidieu, donc en primo-accédant pour les habitants. Donc on a eu 7 personnes qui ont été tirées au sort.
Sur combien de demandes ?
Il y en avait une trentaine. Et on a 2 autres lotissements qui sont en cours de finalisation. Donc les dates, je ne les connais pas. Elsa va mieux savoir que moi.
2023-2024, non Elsa ?
Oui, on a la Chironnière qui est composée de 8 lots. Donc 8 terrains qui vont être commercialisés et qui devraient être commercialisés en fin d'année 2023. Et puis on a la Tonnelle qui est composée de 17 lots et qui lui est plutôt pour la fin d'année 2024.
C'est pas assez ?
Non, c'est pas assez. Non, non, non.
Il en faudrait combien d'ailleurs ?
Après, c'est dur de savoir, parce que là, c'est du primo-accédant, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont
en capacité... C'est de l'accession à la propriété.
Voilà, c'est des gens qui sont en capacité et qui sont en volonté de vouloir devenir propriétaires. Après, on a de la demande, ça c'est évident, il faut la mettre à côté, c'est qu'on a aussi de plus en plus de demandes pour du locatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas être propriétaires ou il y a des gens qui sont là depuis que quelques années, qui ne savent pas encore s'ils resteront, donc eux, ils veulent louer. Il y a des gens qui ont compris qu'ils n'auront pas les moyens, parce que la plupart des gens qui sont en primo-accédant, pour la grande majorité, c'est des maisons qui se construisent en autoconstruction. Et donc là aussi, on commence à avoir des problèmes, c'est que les banquiers ne veulent plus donner de prêts pour les primes, pour les autoconstructeurs. Pour que l'accession à la propriété, ça avance. Ça avance pas très vite, mais ça avance. Et on a de la réserve foncière et on continue d'en acheter quand on peut sur des grandes parcelles qu'on peut découper, viabiliser, etc.
Elsa Marché, si des personnes sont intéressées par ces différents programmes, elles peuvent contacter la mairie de Lille-Dieu ?
Oui, ils peuvent contacter la mairie de Lille-Dieu. On les informera sur les différents projets de terrain à bâtir qui vont être commercialisés dans les mois ou les années à venir. Et pour toute question liée à l'urbanisme ou au logement, les personnes peuvent contacter la mairie.
Autre projet en cours, un projet d'habitat coopératif mené en partenariat avec l'association ILEZ, les enfants de tempête. Où en êtes-vous, Emmanuel Maillard ou Elsa Marché ?
On est en train de choisir, pareil, un cabinet qui va nous aider. Un prestataire qui va nous accompagner. Le terrain, on l'a. On a bien avancé. On va pas tarder à communiquer sur le projet. Je pense que ce sera septembre. Et donc, en septembre 2023, on va dire exactement ce qu'on veut faire. Et surtout, on va faire un appel à projet. C'est-à-dire qu'on va faire un appel aux gens, aux familles, aux couples, aux personnes intéressées. Et on va réunir tout ce petit monde-là. Puis on va travailler ensemble pour que chacun comprenne dans quoi il se lance et s'il est prêt, etc. Alors, c'est intéressant et c'est parce qu'on a été... C'est les enfants de tempête hein, qui nous ont un peu...
aiguillés.
Ouais, bousculés, on va dire même. Mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, ça touche à une chose qui est intéressante, c'est qu'on aurait un terrain qui va rester en propriété collective, à la collectivité, et les gens vont être propriétaires de leur maison. Donc, ils vont avoir un moindre coût. Comme ils seront plusieurs, ça va permettre de diminuer les coûts. Il y a quand même une envie de vivre dans une sorte de
c'est une petite communauté.
Petite communauté, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous dans le même immeuble. On peut faire des petites maisons les unes aux autres avec des logements communs qu'on décide ensemble, donc une sorte de petit quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens s'en vont, ils ne vont pas revendre la maison qui va prendre un prix de dingue et qui sera achetée par quelqu'un qui va arriver du continent et qui aura les moyens d'acheter une maison qui tout d'un coup vaut très cher. Cette maison, elle va rester dans l'État, parce que c'est la coopérative d'habitants qui en est propriétaire. Donc, elle va rester sur plusieurs générations, une résidence principale accessible à des gens.
Pour faire simple, une personne ou une famille rentre dans la maison. Quand elle sort de cette maison, une autre personne rentre.
Exactement. Et donc, on évite tout ce qui est spéculation immobilière là-dessus. Et donc, ça nous questionne sur des choses sur lesquelles on travaille, qui vont mettre plus de temps. C'est sur ce truc, sur ce droit à la propriété. Parce que là, on met en place des choses. On va mettre en place de nouvelles choses. On travaille là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se questionne. C'est que chaque fois qu'une maison est vendue, elle est perdue pour la résidence principale. Je caricature, mais on en est là, vu que le prix médian d'une maison à l'Île-Dieu, actuellement, c'est 500 000 euros. Donc on la perd. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'avenir peut-être de la résidence principale ou de la résidence tout court, d'ailleurs, c'est que la propriété redevienne collective et donc vous évitez la spéculation foncière et vous évitez que les prix explosent et que vous perdez à chaque fois de la résidence principale. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on va. Il faut qu'on travaille là-dessus. Et ça, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Ça questionne tout le monde.
Emmanuel Maillard, délégué à la vie économique à la mairie de Lille-Dieu. Un dernier mot avant de se dire au revoir.
Oui, donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a, on a listé un petit peu les choses qui sont en cours, les choses qu'on est en train de lancer. Donc, elles ne sont pas faites, mais on les lance. Et on a aussi... On va continuer à travailler, comme je disais, sur le logement saisonnier, sur le logement à l'année, comment est-ce qu'on peut aider les gens à franchir le pas ou comment est-ce qu'on peut aider à ce que quelqu'un qui investit, finalement, il soit pas obligé d'investir pour faire du meublé touristique, mais qu'il puisse investir pour faire de la location à l'année. On s'est rapproché des îles du Ponant et on travaille avec eux pour faire du lobbying. Ils vont, toutes les îles du Ponant. Et on va travailler là-dessus sur le surcoût, notamment sur les projets pour le logement social, des choses comme ça, parce qu'on a un tel surcoût. Il est estimé à 40% par rapport au littoral, le surcoût pour la construction, notamment du logement social. Donc, ça bloque. On a besoin de logement social. Donc, l'AIP va travailler auprès du gouvernement, des parlementaires, etc. pour travailler. On va travailler sur le droit de préemption, parce que pour préempter... En fait, c'est très encadré et actuellement, on a de fortes chances de préempter et de se faire débouter devant un tribunal. On va travailler sur le droit de propriété avec eux. Il y a plein de choses qui vont être mises en place, qui sont des dossiers à long terme et on va les travailler avec l'AIP. Donc, on s'est réunis il y a 10 jours et on va continuer de se réunir avec eux. Et on devrait être reçus par des parlementaires avec l'AIP très prochainement.
Pour être clair, l'AIP, c'est l'association des îles du Ponant. Emmanuel Maillard, délégué à la vie économique à la mairie de Lille-Dieu, merci beaucoup.
Merci.
Elsa Marché, chargée de mission Habitat à la mairie de Lille-Dieu, merci beaucoup.
Merci.